Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. De plus, il a déjà mis en place tout le nécessaire pour que cette relation soit possible sans aucune réserve. Pour voir ça, je vous propose d'aller regarder le chapitre 16 du livre de Lévitique. Ce texte, c'est la description du rituel du jour des expiations. Je le mentionnerai aussi sous le nom du jour du grand pardon ou de Yom Kippour. Nous lisons donc au chapitre 16 du Lévitique. Alors, tout le chapitre est intéressant pour la compréhension des enjeux qui sont pour ce jour saint, mais je ne lirai pas toute la description détaillée du rituel. Et ça se trouve du verset 11 au 31, donc on ira de 1 à 10, et ensuite je passerai directement au verset 32. L'Éternel parla à Moïse après la mort de ses deux fils, les deux fils d'Aaron, qui périrent lorsqu'ils se présentèrent devant l'Éternel. Ils lui dirent, « Dis à ton frère Aaron de ne pas entrer à tout moment dans le sanctuaire au-delà du voile, devant le propitiatoire qui repose sur le coffre sacré, afin qu'il n'encourt pas la mort, car j'apparais dans la nuée au-dessus du propitiatoire. » Voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sainte en lin et mettra des caleçons de lin, se ceindra d'une écharpe de lin et se coiffera d'un turban de lin. Il mettra ses vêtements sacrés après s'être lavé le corps dans l'eau. L'assemblée des Israélites lui fournira deux boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira lui-même le taureau du sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Puis il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des deux sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et il offrira un sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme un bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Et je vais directement à la fin, au verset 32. Le rite d'expiation sera accompli par le prêtre qui aura reçu l'onction et l'office sacerdotal à la place de son père. Il ne revêtira les vêtements sacrés en lin. Il accomplira le rite d'expiation pour le sanctuaire sacré, pour la tente de la rencontre et pour l'autel. Il fera aussi le rite d'expiation pour les prêtres et pour tout le peuple rassemblé. C'est pour vous une ordonnance en vigueur à perpétuité. Une fois par an, il faut accomplir le rituel d'expiation pour toutes les fautes d'Israël. Aaron fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il y a deux grandes idées qu'on peut dégager de ce texte. Dans une première partie, nous verrons que Dieu veut séparer son peuple du péché. Dans un second temps, nous verrons que nous sommes purifiés du péché et que par conséquent, la relation avec Dieu est rétablie. Ces deux idées-là sont liées à la même affirmation. Dieu veut avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. À votre avis, à quoi sert le jour du grand pardon dans la foi juive? Si la première réponse qui vous vient à chaud est pour pardonner, vous êtes bien sur la bonne piste, pas de doute. Yom Kippour est encore aujourd'hui un jour saint central dans la communauté juive. Au dernier verset, il est dit que c'est une ordonnance en vigueur à perpétuité. Dans ce cas, s'il est question d'être pardonné, et si c'est en vigueur à perpétuité, pourquoi les chrétiens ne célèbrent-ils pas Yom Kippour? Avant de nous intéresser au texte, regardons le contexte. Le chapitre 16 du Lévitique est l'aboutissement des chapitres 11 à 15. Il vient parfaire toutes les ordonnances que Dieu a énumérées dans les cinq chapitres précédents. Ce sont les lois pour les animaux purs et impurs, sur la purification après un accouchement, sur la lèpre et les maladies de peau évolutives en général, et sur les impuretés sexuelles de l'homme et de la femme. À chaque fois, Dieu décrit la règle définissant chaque impureté et la solution pour redevenir pur. Il décrit ce qu'il faut faire pour obtenir le pardon de telle action ou de telle situation. Le chapitre 16, par le jour du grand pardon, lui traite et bien du reste. C'est la description d'une cérémonie annuelle de pardon universelle pour toutes les fautes du peuple. Au verset 34, on a ça. Une fois par an, il faut accomplir le rite d'expiation pour toutes les fautes des Israélites. Aviez-vous un jour pensé que le Lévitique n'était qu'une liste de choses à faire et à ne pas faire? Ici, en quelques chapitres, et surtout dans celui-ci, Dieu vient donner au peuple des solutions. L'Éternel cherche vraiment à pardonner toutes les fautes de son peuple. En premier lieu, ce n'est pas le peuple qui cherche à être pardonné, c'est le Seigneur qui a fait le premier pas. Toute ressemblance avec une personne dont nous chantons la louange serait purement faite exprès. Et ça, j'y reviens dans quelques instants. Avant ça, notons que ce texte décrit un long rituel plutôt précis et plutôt compliqué qui implique trois sacrificateurs, un taureau, un bélier et deux boucs. Voilà, il y a tout le monde. Voilà. Petite digression, en général dans les Bibles pour enfants, n'est mentionné que le bouc qui est envoyé au désert. Les trois autres étant égorgés avant d'être brûlés, on retient souvent que le sort du seul rescapé de cette affaire. Je reviens sur le rituel. Nous n'avons pas lu tous les détails du rituel ensemble, mais quand j'ai préparé ce message, l'un de ces détails a attiré, a attiré mon attention. Chaque sacrificateur doit se changer et se laver une fois sa part du rituel terminée. Verset 23, par exemple, le grand prêtre Aaron ôtera les vêtements de l'un et les déposera là, il se lavera dans le lieu saint et sortira du lieu saint. Verset 26, l'homme désigné pour chasser le bouc émissaire lavera ses vêtements, se baignera et alors il retournera dans le camp. Verset 28, celui qui aura brûlé les animaux sacrificiels lavera ses vêtements, se baignera dans l'eau et ensuite seulement il retournera dans le camp. Pourquoi une telle insistance sur l'hygiène? Était-ce un rituel si salissant? On peut imaginer qu'à cause des sacrifices d'animaux, cette ordonnance puisse être utile d'un point de vue sanitaire. Mais qu'en est-il de celui qui a juste emmené un bouc dans le désert? Pourquoi cette interdiction à rentrer dans le camp, où se trouvaient d'ailleurs probablement d'autres animaux en grand nombre? À la lumière de ce que l'Éternel met en place dans ce rituel, je pense que la portée est spirituelle. Dieu ne parle pas ici de taches de sang, d'odeur de fumée ou de poussière du désert. Après chacun de ces trois sous-rituels, il est symboliquement important que l'impureté qui a été pardonnée ne revienne pas dans le camp. C'est-à-dire parmi le peuple. Dieu veut séparer son peuple du péché. Et on est clairement dans le thème de cette première partie. Alors, si vous avez bien suivi, j'ai évoqué Jésus-Christ précédemment. Comment passe-t-on de l'analyse de ce rituel à Jésus? Il y a quelques mots qui peuvent nous guider. J'ai parlé de séparation du péché, c'est le rituel de Yom Kippour, qu'on traduit par le jour du grand pardon. Autre référence intéressante, le verset 30, Dieu lui-même dit Car en ce jour-là, on accomplira le rite d'expiation pour vous, afin de vous purifier de vos fautes. Ainsi, vous serez purs devant l'Éternel. » Dieu ne parle pas ici de compenser les fautes de son peuple par un prix à payer, comme on paye une amende. Le Seigneur annonce la purification des fautes, et en conséquence de cela, le peuple sera pur devant l'Éternel. Voici le parallèle avec Jésus-Christ à la croix. Un auteur du Nouveau Testament l'explique de manière tellement pertinente que je préfère le laisser parler à ma place. Et on va voir ça en Hébreux chapitre 9, et je lirai à partir du verset 11. Or le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire céleste. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent leur pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort, afin que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance. Il a pénétré une fois pour toutes. Il nous a acquis un salut éternel. Le sang versé de Christ est suffisant. Il n'y a pas besoin de refaire mourir Jésus chaque année. Tout est déjà pardonné. Et par notre foi, nous sommes purifiés du péché. Pour imaginer cette différence fondamentale entre les grands pardons, celui de l'ancienne alliance qu'on a vu dans le Lévitique et celui de la nouvelle alliance par Jésus, je vous renvoie à ce que vous appréciez depuis des mois maintenant, le gel hydroalcoolique et les masques. Avec le gel, nous purifions nos mains à un instant T du virus qui pourrait potentiellement être dessus. Avec le masque, nous empêchons le virus de se propager. Si on est porteur du virus, on retarde de cette manière, on espère en tout cas, la diffusion du virus autour de nous. On voit bien que d'un point de vue statistique, par contre, le gel et les masques ne sont pas une solution parfaite. Les cas de contamination sont là, malgré les précautions prises, malgré les confinements, malgré les couvre-feux, malgré le télétravail. Dans l'ancienne alliance, c'est un peu comme si le peuple n'avait que le gel et le masque contre le péché. C'est pourquoi la prescription divine est de refaire le sacrifice chaque année. Car le peuple a probablement fait telle ou telle chose qui déplaît à Dieu depuis le dernier Yom Kippour. Nous, chrétiens, croyons qu'il n'y a que le sacrifice de Jésus qui peut résoudre durablement et définitivement le problème du péché. Serait-ce là le miraculeux vaccin qu'Israël attendait contre le péché? Pour conclure sur cette première partie, que pouvons-nous retenir? Les questions de départ étaient, si le rituel était instauré à perpétuité, pourquoi les chrétiens ne le font-ils pas? Eh bien, le sacrifice de Jésus est le jour du grand pardon à perpétuité. Là où le sacrifice d'animaux ne permettait que d'être pardonné des fautes passées, son sacrifice est parfait, complet et suffisant. Aucun autre sacrifice ne peut ajouter quelque chose de plus. Si c'était le cas, alors Jésus ne serait pas parfait. Du coup, nous sommes libérés du péché. Non pas à cause de notre habileté à ne pas nous rendre impurs, mais parce que nous sommes déjà purifiés. Paul a dit sur cela que puisque notre vieil homme a été enseveli avec Christ par le baptême, nous pouvons revivre une vie nouvelle par sa résurrection. Les sacrificateurs, eux, devaient veiller à ne pas réintroduire l'impureté dans le corps. Nous devons peut-être veiller à ne pas annuler le bénéfice de la liberté du péché acquise en Christ en nous rendant nous-mêmes esclaves du péché. Et s'il advient que ce soit le cas, Christ a déjà payé le prix. Il n'y a plus rien à faire que de revenir vers lui pour obtenir le pardon. Entretenir une bonne relation avec Dieu, libre du péché, est possible à chaque instant car Dieu a déjà tout accompli, tout mis en place pour cela. Prenons un instant pour réfléchir à ça, après quoi nous attaquerons la seconde partie de cette prédication. Donc, purifié du péché, la relation avec Dieu est rétablie. Une chose est certaine, Ancien ou Nouveau Testament, Dieu ne change pas. Il est et reste pleinement saint. Question ? Pourquoi est-il plus facile désormais d'accéder à la présence de Dieu ? Eh oui, le début du texte dans le Lévitique annonce la couleur. Si Aaron, qui est pourtant lui le grand prêtre, se présente d'une mauvaise manière dans le lieu très saint, c'est-à-dire dans le lieu de la présence de Dieu, il mourra comme ses deux fils. La règle est posée, une seule personne, un seul prêtre, une seule fois dans l'année, Yom Kippour, et une personne bien définie, à savoir le grand prêtre qui a reçu cette charge par onction de la part du grand prêtre précédent. De plus, la description du rituel nous informe que le grand prêtre, afin de pouvoir entrer dans le lieu très saint, doit effectuer le sacrifice d'un taureau pour lui-même. Entre le lieu saint et le lieu très saint, il y a un voile. Même si ça peut paraître anodin, le verset 12 est catégorique sur ce point. Après avoir effectué le sacrifice du taureau, il, donc Aaron, prendra des charbons ardents et du parfum et emportera le tout au-delà du voile. Ce verset est en miroir avec le verset 2 qui mettait Aaron en garde de ne pas entrer à tout moment au-delà du voile sous peine de mort. Allez, je vous fais travailler un peu. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans le temple de Jérusalem à la mort de Christ? Le voile s'est déchiré. Merci, j'entends une des... Je le lis dans l'évangile de Matthieu. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même moment, le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Il faut comprendre que ce rideau porte la symbolique de l'accès à la présence de Dieu. S'il n'y a plus de voile, s'il n'y a plus de rideau, il n'y a plus de restriction pour être dans la présence de Dieu. Plus besoin d'être un grand prêtre le jour de Yom Kippour à Jérusalem et de tuer des taureaux pour être dans la pleine présence de Dieu. La déchirure du voile produite à la mort de Christ fait voler en éclats le rituel du jour du grand pardon. Je retourne dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10. Les versets 19 et 20 donnent ceci. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, le corps de Christ sacrifié prend le rôle du rideau. Celui qui s'en remet au sacrifice de Christ gagne l'accès au lieu très saint, c'est-à-dire à la présence de Dieu parmi les hommes. Par cette œuvre, Christ restaure complètement la relation entre Dieu et les hommes, qui avait été perdue lorsque Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est Dieu qui a tout mis en place pour que la relation soit restaurée. Christ, par sa pleine divinité, fait ça pour les hommes. Dieu veut une relation avec nous, et il a permis que le péché ne soit plus une barrière nous en empêchant. Dans mon lieu de travail, et peut-être aussi dans l'autre, il a été mis en place de la sécurité physique. On entendait par là que pour passer les portes, je dois badger. Pour rentrer, donc je badge au portique extérieur, à la porte d'entrée du bâtiment, avant l'escalier et finalement à mon étage. Le badge m'a été attribué le jour de mon arrivée dans l'entreprise et il est valable jusqu'à la fin de mon contrat. Mais si un simple visiteur veut faire la même chose, il doit montrer patte blanche à l'interphone à l'extérieur, expliquer pourquoi il est là à l'accueil, se faire accueillir personnellement par la personne qui l'a invité. Et finalement, à la fin de la journée, il doit rendre son badge. Parce que son badge n'était qu'un badge visiteur, c'est marqué dessus. Dans cette illustration, avoir le sacrifice de Jésus en poche, c'est avoir un peu le badge du rideau très saint, du rideau vers le lieu très saint. Pardon. Dans l'Ancien Testament, seul le grand prêtre, par ordonnance divine, avait un badge visiteur un jour par an. Et seulement une fois qu'il avait fait tout ce qu'il faut pour pouvoir rentrer. Alors oui, la réponse à la question, c'est au final, il est clairement plus facile d'accéder désormais à la présence de Dieu. Dieu a fait absolument tout ce qu'il faut pour nous permettre d'être en sa présence. Nous sommes purifiés intérieurement du péché, donc aptes à être dans sa présence. Et nous avons, j'ai envie de dire, le pass pour rentrer. Alors, quelques questions pour aller plus loin. Si Dieu a montré qu'il veut de cette relation, la voulons-nous pour autant? Est-ce que je me rends bien compte que je suis un privilégié à pouvoir avoir cette relation si simple avec l'Éternel? Et est-ce que j'en profite? En guise de conclusion à ce temps de réflexion sur le jour du grand pardon, je vous laisse avec ces quelques versets d'encouragement d'Hébreux 10. Et si j'arrive, Eric, si tu veux bien, je te laisse faire la lecture.